Dimanche dernier, nous avons commencé une mini-série, en quelques épisodes seulement, sur les idées reçues et l'Évangile, ou l'Évangile contre les idées reçues, et des phrases qui commencent toutes par des idées reçues, qui commencent toutes par l'expression « dans la vie ». Et la première de ces expressions, de ces idées reçues que l'on a mis en rapport avec l'Évangile, « dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite ». Et ça nous avait permis de parler de la grâce de Dieu, de son amour immérité, sans mérite, comme l'accueil du Père pour le Fils prodigue, qui lui met les mains dessus pour l'accueillir, comme ce détail du tableau de Rembrandt, avec une main paternelle et une main maternelle. La grâce de Dieu imméritée. Et puis, aujourd'hui, une autre expression. Dans la vie, il faut se battre. Alors, on l'a vu dans les idées reçues, il y a toujours une part de vrai et de vérité et même de bon sens. Vous connaissez l'expression « on n'a rien sans rien » où le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui sont prêts à retrousser leurs manches, à se battre contre les paupières lourdes et qui sont prêts à prendre les choses en main. Parce que dans la vie, il faut se battre. Et on aime en particulier Violette d'Orange, qui a fait le Vendée Globe à 23 ans, la Benjamin de tous les Vendée Globe, et qui a été suivie par 500 000 personnes sur Instagram, dont ma femme. Elle s'est jamais intéressée au Vendée Globe. Et là, tout d'un coup, elle suit Violette d'Orange. Magnifique, même si elle est arrivée que 25e sur 33. Mais c'est une battante. En plus, pleine d'humilité, de gentillesse et de fraîcheur. Mais une battante, et les battantes nous font du bien. Et Violette nous fait du bien. Il faut se battre dans la vie. Contre les vagues. 6 mètres dans les mers du sud pour Violette, contre vents et marées pour nous, il faut se battre contre le découragement, il faut se battre contre l'administration pour avoir les papiers, il faut se battre contre la CPAM qui vous enlève une allocation, il faut se battre contre l'inertie, il faut se battre contre le laisser-aller, le repli sur soi, il faut se battre contre ses mauvaises habitudes, il faut se battre contre les épreuves en tout genre, il faut se battre contre la culpabilité, le désespoir. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut se battre. C'est évident. On le sait depuis longtemps, mais dans cette idée reçue, il y a aussi un côté sombre. Quand l'idée de la vie comme étant le lieu d'une bagarre constante, commence à poser problème, c'est quand elle commence, de même que le mérite, à devenir une sorte de philosophie de la vie qu'on pourrait appeler la culture de la gagne. Et notre société n'est pas loin de nous pousser dans cette culture de la gagne à grand renfort de communication. Et l'idée fait son chemin quand même, que si on devient un gagnant, un battant, un winner, c'est toujours mieux en anglais, la vie va te sourire. On a même des grands meetings ou de grands messes avec autour de cette idée de gagner avec les prêtres de cette nouvelle religion. Regardez ça. Vous êtes nés pour gagner. Mais pour être un gagnant, vous devez planifier pour gagner. Se préparer à gagner et s'attendre à gagner. La culture de la gagne, prêchée dans les grands rassemblements de cette religion. On est passé de « je veux gagner ma vie » à « gagner, c'est ma vie ». C'est la culture de la gagne. Je vous propose aussi regardez. Parfois, pour gagner, il faut savoir perdre. Un summum de sagesse, n'est-ce pas? Mais au niveau de l'orthographe, c'est pas gagné. Hein? Alors, on prévoit dans la culture de la gagne quand même quelques égratignures, quelques blessures, mais même si tu tombes de temps en temps, tu vas te relever. Tu vas t'en sortir. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, dit un club de foot du sud de la France dont je tairai le nom. Un club qui veut aller droit au but, si vous voyez de qui je parle. Et il semble qu'on soit sous la pression pour gagner et que c'est une pression de tous les jours et ça commence très tôt. Regardez ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et puis en petit, enfin je pense, je ne suis qu'un gosse. Si tu veux arriver dans la vie, deviens ou sois un battant, un héros de ta propre vie. Un héros à ton niveau, mais un super-héros quand même. Et tous les médias nous rappellent que l'avenir est pour ceux qui gardent le couteau entre les dents. Il n'y a pas le choix. Soit tu es un winner, soit tu es un loser. Et je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais moi, après quelques années dans ce monde, je ressens dans notre culture ambiante comme une obligation à gagner, à être un gagnant ou du moins un battant, une sorte de diktat sur notre vie. Tu dois être un gagnant, une pression qui pèserait sur, je pense, chacun d'entre nous. Tu dois réussir, pas seulement le bac, mais aussi ta carrière, ta santé, ton mariage, tes relations, ta vie sexuelle, ta famille, ta retraite même. Tu dois réussir ta retraite, tu dois être un gagnant dans ta retraite. Tu dois te battre sur tous les fronts. Alors, on a envie de dire, oui, certes, c'est indubitable, mais que fait-on ? Et le 1er mai, il y en a deux. Que fait-on quand le ressort est cassé ? Quand on n'a plus de force pour se battre ? Que fait-on quand on ne parvient pas à rebondir ? Quand on n'a plus rien dans le moteur ? Quand on est pressé comme un citron et qu'on n'a plus rien à donner, quand on vit des échecs et qu'on ne parvient plus à s'en relever. Que fait-on quand on est un perdant un peu perdu ? Dans la vie, il faut se battre, certes, oui. Mais que fait-on quand quelque chose dans cette bataille de la vie comme l'armée dans l'histoire des chroniques, nous dépasse complètement. Quand quelque chose nous dépasse, et ce quelque chose, ça pourrait être la mort, qui nous dépasse complètement. Et je pense à cette histoire que Jésus raconte. On appelle ça des paraboles, une histoire qu'il invente. Mais pour illustrer un discours, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, c'est la parabole, vous connaissez pas ce titre, mais je vous le donne, du gagnant insensé. Un riche avait des terres qui lui rapportaient de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, que vais-je faire ? Je n'ai plus de place pour entreposer mes richesses. Voici ce que je vais faire. Je vais construire de nouveaux greniers et j'y amasserai tout mon blé et je dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens pour de nombreuses années, repose-toi, mange. Et bois, et jouit de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, manque de sens. Dans le grec, manque de réflexion intérieure. Cette nuit, ton âme te sera demandée. Ou dans la traduction, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Un type qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui fait des projets, qui dit aussi cette maxime, que j'ai entendu, un gars me l'a dit un jour, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et il fait des projets, il va acheter de nouveaux greniers pour pouvoir entreposer, mais à la fin de l'histoire, il y a comme un hic. Il y a comme un truc qui lui arrive et qui le dépasse complètement, et ça s'appelle la mort. Et Jésus, quand il raconte cette histoire, plombe l'ambiance. Ah ben oui, et moi aussi ce matin. Je plombe l'ambiance. Mais il me semble que c'est une bonne chose de penser à la mort de temps en temps, sans être morbide, pour la simple raison qu'elle nous arrive à tous. J'ai un ami médecin chrétien à Orléans qui venait à l'église, et un jour il me raconte qu'il y a un patient qui vient pour une broutille et qui demande à Max, le médecin, « Docteur, vous pensez que je vais mourir ?» Et le médecin lui répond, Max lui répond, « Oui, certainement. » Et devant les yeux effarés de son patient, il lui a dit, « Mais peut-être pas tout de suite. » Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais la mort tue. Et le fait d'être un battant ou un winner ne donne aucun avantage, on est tous complètement dépassés par rapport à la mort. Et même le fait d'être un gagnant serait plutôt un désavantage face à la mort, parce que le battant, tout simplement, n'est pas préparé. C'est Jésus qui le dit. Il nous dit que si on est préoccupé seulement dans le fait de réussir dans sa vie, et d'être un gagnant, on passe peut-être à côté de l'essentiel qui est pour Jésus d'être en relation avec ce Dieu qui donne la vie, qui donne du sens à la vie, qui donne de la profondeur à la vie. Et il va dire cette phrase magnifique, parce que Jésus dit des phrases magnifiques. En effet, dit Jésus, celui qui veut sauver sa vie la perdra. À quoi bon gagner le monde ? À quoi bon pour un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Ou s'il perd son âme, dans d'autres traductions, s'il perd son âme dans l'affaire de vouloir tout gagner dans sa vie, de vouloir tout contrôler dans la vie. Et quand il dit, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire, celui qui veut contrôler sa vie, celui qui veut la mainmise sur sa vie, celui qui veut conquérir sa vie, celui qui veut tout gagner dans sa vie, eh ben, il va la perdre, la vie va lui filer entre les doigts, comme le sable sur la plage vous file entre les doigts dans votre poing. Quand on veut mettre le grappin sur sa vie, tout contrôler et tout gagner, on passe à côté de l'essentiel. Et j'ai mis un petit exemple en vert que j'ai barré, que je dis, moi j'ai pensé à Elon Musk. Bref, dans la vie, il faut se battre, oui, mais que fait-on quand on n'a plus de force et quand l'adversaire et l'adversité nous dépassent et quand on y regarde de plus près cette pensée unique, cette idée reçue que dans la vie, il faut se battre, elle se révèle vraiment limitée et en tout cas invivable. Le thème de notre série, c'est donc l'évangile contre les idées reçues. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit Jésus, parole de Dieu? Que dit l'Évangile à propos de cette culture de la gagne? D'abord, on va nous proposer un renversement des idées reçues. Jésus va dire des choses qui vont tout à fait à l'encontre de ce que la culture ambiante va distiller. On pourrait parler d'un évangile à contre-culture, ou à contre-courant en particulier, à contre-courant ou à contre-culture de la gagne. Et on a déjà parlé de cette parole de Jésus qui cherche sur celui qui cherche à conquérir sa vie, qui la perd dans le même mouvement. Mais Jésus va dire pire que cette phrase. Il va faire pire dans le paradoxe, il va dire aussi que les premiers seront les derniers. Et que les derniers seront les premiers. Ça s'appelle un renversement, n'est-ce pas? Et cette parole, les premiers seront les derniers, nous interpelle, nous intrigue, nous irrite parfois. Et on se dit, les premiers seront les derniers, mais où va-t-on? Tous les professeurs se demandent comment appliquer ça dans leur classe ou dans leur conseil de classe, n'est-ce pas? Hein? Si vous commencez à dire au conseil de classe, vous savez, messieurs, mes collègues, les premiers seront les derniers, mais le conseil de classe risque de durer un petit peu. Mais quand Jésus dit « les premiers seront les derniers », c'est pas une invitation à l'anarchie, mais Jésus nous invite à redéfinir nos critères de succès, nous invite à ne pas nous satisfaire des apparences, à ne pas penser que celui qui paraît être le premier toujours gagnant, toujours bien placé, n'est peut-être pas si bien placé que ça. Et que celui qui n'a l'air de rien, qui est un peu hors course, le loser, le perdant, n'est peut-être pas si mal placé que ça. Tout dépend des critères. Et Jésus va dire aussi dans son sermon sur la montagne et dans ce passage très connu de Matthieu 5, 6, 7, heureux les béatitudes, heureux ceux qui se reconnaissent comme pauvres. Alors, il n'est pas question d'argent ici, de pauvreté financière. Nulle part dans la Bible on fait l'éloge de la pauvreté, ni même de la richesse. Mais on met le focus sur le fait que ceux qui se reconnaissent comme pauvres à l'intérieur, qui se reconnaissent un peu par perdants, heureux sont-ils ? Ils sont heureux parce qu'il y a une promesse pour tous les perdants qui reconnaissent leur manque, leur besoin d'autre chose, leur besoin d'autre chose qu'être un super-héros. Et cette promesse, c'est que le royaume des cieux leur appartient. Alors, on dirait beaucoup sur ce royaume. On pourrait faire une série de prédications sur le royaume. Mais ceux qui sont riches de ce royaume, ceux qui se reconnaissent comme pauvres, sont riches de ce royaume, non pas parce qu'ils sont des perdants, mais parce qu'ils ont conscience de l'être et qu'ils ont conscience d'avoir besoin de ce royaume. Et dans la bouche de Jésus, et comme je le disais tout à l'heure, on pourrait en parler de ce royaume, on n'a pas le temps pour l'instant, mais dans la bouche de Jésus, le royaume, c'est le top du top. Et moi, je veux faire partie de ce royaume. Ils sont heureux. Et ces paroles nous font du bien, même si elles nous déstabilisent un petit peu dans nos schémas préétablis, même si on ne sait pas trop comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Les premiers seront les derniers. Mais parce qu'elles nous, elles inversent des valeurs qui nous enfermaient et qui nous accablaient. Et ce renversement nous donne de l'air. Moi, simplement d'entendre « les premiers seront les derniers », ça me fait du bien. Et quand c'est un petit peu comme j'ouvre la fenêtre le matin et que je vois la croix des gardes et les mimosas, et surtout que je reçois un petit coup de brise qui m'ébouriffe les cheveux, un vent, un souffle, comme un vent de l'esprit. Alors, encore faut-il donner à ces paroles de Jésus du crédit. Et je sais que pour certains ici, le fait de dire que ce sont les paroles de Jésus ne suffisent peut-être pas tout à fait, et c'est tout à fait légitime. Mais Jésus va faire plus que de parler du renversement des valeurs. Il va les vivre en lui-même. Dans son être, dans sa vie, dans son corps, il va l'accomplir, ce renversement, en lui-même. Et on va passer un petit peu de temps pour parler de cet accomplissement, ce renversement vécu par Jésus, en commençant par Pierre. Alors Pierre, c'est un battant dans la vie, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, qui en a fait des tonnes et qui est prêt à se battre quand les choses prennent pour que les choses prennent la tournure qu'il veut. Un battant Pierre, un petit peu fragile, hein, sur les bords, hein, comme beaucoup de bagarreurs, mais c'est un battant. Et quand Jésus, à un moment, lui annonce qu'il va avoir des problèmes avec les autorités, il y a Pierre, le battant, qui va lui faire la leçon. Alors Pierre le prit à part et se mit à faire des reproches à Jésus. Hein. Il est costaud quand même. Il fait des reproches à Jésus, il dit « qu'à cela ne tienne, cela ne t'arrivera pas. » Parce que il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Parce que j'aime pas être du côté des perdants non plus. Moi qui suis un battant. Je te fais la leçon, Jésus. Sois un gagnant, Jésus. T'es quand même le fils de Dieu, saperlipopette. Et quelques semaines plus tard, quand une troupe de soldats vient arrêter Jésus. Pierre réagit comme un battant, un guerrier. Il prend son épée. Il devait être armé selon le deuxième amendement de la Constitution américaine. Il a le droit. Et il frappe un coup. Alors, il est pas très doué, Pierre, parce que il coupe juste une oreille. Il aurait pu trancher le cou quand même, mais pardon. Une oreille d'un pauvre soldat. Et Jésus va lui dire, écoute Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas aller jusqu'au bout de l'épreuve que mon Père m'a donné de porter? Jésus dit, j'ai une mission à accomplir qui n'est pas de me battre contre le monde entier, mais de me donner pour le monde entier. Et la croix est véritablement le lieu du renversement des valeurs que Jésus vit dans son être tout entier. Vous savez, la crucifixion, c'est la marque de l'échec total. Le citoyen romain pouvait tuer père et mère et autre chose encore, il n'était jamais crucifié. La crucifixion était pour les esclaves en fuite, pour les rebelles, pour les criminels de bas étage, pour le rebut de la société. Et Jésus, l'homme en mission, est sur cette croix. On lui met une pancarte. Ici, le roi des Juifs pour se moquer, lui qui voulait sauver les hommes. Il se retrouve sur une croix comme un loser, comme un perdant sur tous les plans. Même Pierre l'a renié 3 fois plutôt qu'une. Mais à la fin de son agonie, Jésus va dire une petite phrase qui dit tout sur le renversement. Jésus, dans un souffle, alors qu'il est à moitié asphyxié, c'est la mort sur la croix, c'est l'asphyxie, il va dire 3 mots. Tout est accompli. Alors que ses amis qui le regardent mourir et ses ennemis se disent « tout est perdu », tout l'espoir que nous avons mis en cet homme est perdu à jamais. Lui, cet homme, dit, tout est accompli. Tout est fini. Tout est fait. Et il parle de sa mission qui était de prendre sur lui toute la laideur du monde et du cœur de chacun, tout le mal en général et le mal en particulier qui plombe ma vie et mes relations, toute la souffrance du monde et la mienne, il les prend sur la croix, toutes les peurs du monde et en particulier celle de la mort, il les prend sur la croix, tous mes échecs. Il les prend sur la croix, il les prend sur lui jusqu'au bout, il meurt à ma place, il paye le prix de ma rançon alors que j'étais otage de mes peurs, de ma culpabilité, de mon insignifiance, de mes échecs. Et il peut dire alors, Jésus sur la croix, avant de rendre l'esprit, il peut dire, tout est accompli, tout est fait. Alors que tout semble dire le contraire. Il y a à la croix un renversement spectaculaire entre le perdant gagnant. Jésus est vraiment le dernier qui est devenu le premier, la principale, la pierre de l'angle. Et en s'approchant de celui qui a dit et vécu ce tout est accompli, tous les losers de ce monde dont je suis moi le premier, tous ceux qui sont sur le point d'abandonner la partie, peuvent trouver le courage de se relever. Parce que lui a réussi son combat. Et Matthias l'a dit tout à l'heure, y a-t-il quelqu'un pour se battre à ma place? Oui, Jésus s'est battu à ma place et il a gagné le combat contre le désespoir et la mort et qu'il veut nous faire partager cette victoire. Une victoire acquise non pas par l'épée, mais par l'amour. L'amour qui se donne, l'amour qui donne par-dessus, qui pardonne. L'amour qui s'abandonne. En 1968, ça remonte un petit peu, Paul Simon, et a écrit une chanson avec et qu'il a chantée avec Garfunkel, et qui a fait le tour du monde, The Boxer. Je sais pas si moi j'ai cette pochette hein, dans ma. Hein, on est beaucoup, hein, tous les baby boomers en tout cas, ils ont c'est l'album. Alors l'album est plus tardif et il est de 78, mais. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'en va de sa province et qui monte à New York pour y tenter sa chance. sa chance, mais il y vit l'échec et se retrouve dans les coins les plus sales de New York, avec les plus démunis, dans le froid glacial de l'hiver new-yorkais. Il est prêt à abandonner la partie, mais il va faire comme une rencontre. Clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, lie, lie. Moi, cette chanson, je l'ai apprise par cœur quand j'étais en troisième à mon cours d'anglais, The Boxer. Et merci à Yvonne, elle a fait le montage, les sous-titres, tout. Elle est magnifique, c'est une battante. Et il y a le pasteur Max Lucado, oh, voilà, qui est pasteur à San Antonio, et qui a écrit 32 livres, beaucoup traduits en français, qui est vraiment un super pasteur, avec des super textes. Peut-être vous avez un livre de Max Lucado dans votre bibliothèque. Je vous le conseille en tout cas. Il a été, avec toute une série de pasteurs, un des premiers à prendre position contre Trump en 2016. Et il a réinterprété cette chanson du boxeur, et surtout avec la phrase « And the fighter still remains ». Mais le combattant est toujours là. Celui qui porte sur son corps toutes les marques de ses anciens combats. Lui qui ne jette jamais l'éponge. Lui qui va jusqu'au bout. Et ce n'est pas tellement qu'il gagne quelque chose, ce n'est pas vraiment un winner, mais c'est quelqu'un qui reste, qui still remain, qui est toujours là. Et il semble que cette rencontre va changer les choses pour celui qui était prêt à tout abandonner. I am leaving, but the fighter still remains. Parce que il semble que lorsqu'on peut s'appuyer sur quelqu'un qui n'a pas abandonné la partie, comme le boxer qui porte les cicatrices de tous les coups qu'il a reçus, mais il a continué là, il n'a pas abandonné, quand on s'appuie sur ces gens-là, quand on rencontre ces gens-là, eh bien, on y puise le courage de continuer. Et Max Lucado pensait à Jésus-Christ comme étant ce boxer. Et on y pense aussi, pour nous, ce battant, c'est le Christ. Pour les chrétiens de cette communauté, il est celui qui a tout accompli pour que je puisse vivre de cette réussite ou de cet accomplissement. Alors, il faut bien préciser les choses, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout devient facile. Il y a des fois où on a envie de jeter l'éponge, où on se sent perdant, vraiment perdant. Et tous ceux qui sont ici et qui sont chrétiens peuvent vous dire qu'ils vivent de ces moments-là, où on se sent, comme on dit en français, minable. Mais dans ces moments-là, on peut repenser à notre boxeur et même nous adresser à lui dans la prière. « Seigneur, mes émotions sont à la baisse, mon moral n'est pas au beau fixe. Je me sens comme un perdant et peut-être même que je le suis. Mais je veux vivre non pas sur mes émotions, mais sur la réalité de la croix. Je veux vivre de cette victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de l'espérance sur le désespoir. Je veux vivre dans la présence de celui qui s'est battu pour moi, qui s'est battu pour nous. Je veux vivre avec lui. Et en comptant sur lui, je termine en donnant deux petites choses. deux propositions. Rengaine ton épée, remets tes armes dans leur fourreau, raccroche les gants. Oui, il faut être combatif dans la vie, mais trop c'est trop. Quand on se bat contre tout le monde et contre le monde entier, on n'est plus dans la combativité, on est dans l'agressivité et on est dans la colère. Et cette colère et cette agressivité nous enferment et nous isolent. De même, il faut se battre un peu avec Dieu, se poser des questions, de remettre en cause son existence, de se battre avec ses doutes, mais à un moment donné, il faut aussi remettre l'épée au fourreau et accepter non pas la défaite, mais que le combat prenne fin. Il faut savoir non pas abandonner la partie, mais s'abandonner soi-même et dire « oui, je crois et je te suis ». Et je sais qu'il y a certains d'entre nous qui doivent encore rengainer leur épée parce qu'ils sont en colère et accepter de se mettre résolument à la suite du Christ, celui qui a combattu pour nous, et prendre position en Christ et que cette bataille de la vie n'est plus notre affaire. N'est-il pas temps de raccrocher les gants ? Et puis comme deuxième proposition, je vous invite avec moi à choisir Jésus comme ami pour la vie. Je dis un ami parce que les frères et sœurs, on les choisit pas. Mais un ami, ça se choisit. Choisir un ami qui vous porte, qui vous donne le courage, qui a les paroles de la vie éternelle, qui vous aide à ne pas abandonner la partie. Un ami qui se tient au milieu de la clairière de votre vie et qui vous dit qu'il est là et qu'il remains et qu'il est toujours là. Et qu'il sera là jusqu'à la fin du monde. Dans la vie, on a besoin d'un ami. Amen.